On va tester pour voir si vous m'entendez bien. Oui, c'est assez fort. Pas tout à fait. On va l'approcher. Là, est-ce que c'est mieux? Bon, tant mieux. Bon, alors, moi, je remercie le bon Dieu de voir qu'il nous a donné une belle introduction à notre thème d'aujourd'hui par ce que Raymond vient de nous partager. Hein? Alors, je pense que ça introduit bien le thème. Et puis, d'abord, avant le thème, c'est les premiers dans le royaume. Hein? Et puis, avant de commencer à vous parler, j'aimerais que Francine vienne nous lire le texte de la parole de Dieu qui est proposé aujourd'hui. Alors, Francine, alors écoutons vraiment cette parole et essayons de garder dans notre cœur ce qu'elle nous inspire personnellement.
Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, que veux-tu? Elle répondit, ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Il lui dit, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe, vous la boirez. Quand vous siégez à droite ou à gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les dix autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Parole du Seigneur.
Merci beaucoup, Francine. Alors, quand Jean-Claude m'a demandé si j'accepterais de donner la parole aujourd'hui, le 27 février, il m'a demandé ça à l'automne, je pense, là. Puis j'ai dit oui. Puis j'ai lu tout de suite le thème, « Les premiers dans le royaume ». Puis là, j'ai demandé au Seigneur, essaye de me faire intégrer ce que tu veux que je dise à ce moment-là. Quelle parole tu veux que je transmette aux personnes? Et je suis partie avec ça, les premiers dans le royaume. Mais je me suis rendu compte que, ben là, j'ai pas commencé à écrire des choses tout de suite, mais ça me trottait dans la tête puis dans le cœur. Mais ce qui me trottait dans la tête, c'est les derniers dans le royaume. Je pense que j'ai passé une couple de mois à prier là-dessus, les derniers dans le royaume, sans toujours relire le texte, les derniers dans le royaume. Puis à un moment donné, bien, là, le temps approche, je vais vraiment me préparer plus profondément. Je suis allée vivre une journée de poustignat à la Fraternité Saint-Alphonse, dans la tranquillité, dans la prière. Puis là, puis c'était spécifiquement dire au Seigneur, là, c'est un temps fort, on se prépare ensemble. Je regarde le thème, les premiers dans le royaume. Mais j'ai dit, comment ça se fait que moi, c'était, ce qui me trottait dans la tête, c'était les derniers. Bon. Et j'ai remarqué que dans les Écritures, ça arrive souvent les derniers, puis les premiers, puis le plus grand, puis le plus petit, puis ça finit pas. Il y a beaucoup de textes de la parole de Dieu qui fait un petit peu des comparaisons comme ça. Et je vous donne le mot de la fin, bien que je vais continuer à parler. C'est que dans le royaume de Dieu, c'est ça que le Seigneur a semblé vouloir me faire comprendre, que dans le royaume de Dieu, nous sommes tous premiers. Il n'y a pas de dernier. Nous sommes tous les premiers. Alors, quand on est dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de distinction. Bon, mais vous allez me dire, oui, mais Jésus a dit, les premiers sont les derniers, puis les derniers sont les premiers, puis le plus grand dans le royaume des cieux, il a appelé un petit enfant, déjà un petit, puis un grand, puis tout ça. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, on parle souvent petit, grand. On parle aussi de la paille et la poutre. Une différence, hein? La paille, c'est petit, la poutre, c'est grand. Mais à chaque fois, j'ai remarqué qu'à chaque fois, c'était pour nous faire comprendre que chaque personne a droit à sa dignité. C'est la même chose pour la semence. La plus petite semence produit un grand arbre. Encore petit et grand. Mais c'est toujours pour nous faire comprendre la grandeur du cœur de Dieu qui fait des merveilles avec chaque personne si on s'ouvre et si on accueille. J'ai bien aimé le poème que Maude a écrit pour le thème de notre année, la loi nouvelle, hein, qui est la loi de l'amour. Hein? Aimez-vous les uns les autres, la loi de l'amour, hein, le commandement de l'amour. Et je pense que je vous ai déjà dit, quelqu'un m'avait dit, si j'écrivais le commandement de l'amour, je dirais, prenez soin les uns des autres. Aimez-vous les uns des autres, ça veut dire, prenez soin les uns des autres, parce que chaque personne est importante. Chaque personne a droit à sa dignité. Alors, Maud écrivait, « Les premiers dans le royaume, sur notre terre, sont un baume. C'est un exemple à suivre qui donne la joie de vivre. » Alors, comme nous sommes tous des premiers dans le cœur de Dieu, et c'est pour nous autres, alors nous sommes appelés à être un baume pour les uns les autres. Hein? Des fois, bon, je me suis déjà fait dire que je n'étais pas un cadeau. Probablement que la personne ne trouvait pas que j'étais un baume. Hein? Bon, je l'étais peut-être pas pour elle. L'important, c'est qu'elle continuait de demeurer un baume pour Dieu et que moi, j'y crois qu'elle était un baume pour Dieu. Bon, ça s'est fait avec le travail de Dieu. Hein? Alors, imaginez que l'abbé Pierre-René Côté, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, il nous donnait un enseignement dernièrement, puis il disait... Hein, puis moi, ça m'a parlé des premiers et des derniers. Qu'est-ce que vous diriez si en arrivant au ciel, c'était Hitler qui vous ouvre la porte avec Pierre? Si c'était Staline qui vous ouvrait la porte, Pierre a dit, tiens, voudrais-tu me remplacer pour un bout de temps? Staline, ouvre la porte à ceux qui rentrent au ciel. Comment vous réagiriez? Que ce soit Hitler qui vous ouvre la porte? Wow! Hein? Les premiers puis les derniers, peut-être que j'aurais envie de dire, OK, j'entre, mais qu'ils sortent, hein? les premiers pour Dieu. Qui va être avec Pierre pour nous ouvrir la porte? Qu'est-ce qu'on voudrait qu'il soit avec Pierre, Saint-Pierre, pour nous ouvrir la porte? Et on peut réfléchir en ce moment, qui est-ce qu'on ne voudrait pas qu'il soit à côté de Pierre pour nous ouvrir la porte? Bon, c'est pas nécessaire que ce soit Hitler, la réponse, ou Staline, là. Mais il y en a peut-être d'autres personnes que je dis, eh mon Dieu, dis-moi pas qu'elle est rentrée là avant moi. Hein? Dis-moi pas qu'elle est, elle aussi, première dans le cœur de Dieu, comme moi je désire l'être. Celle, par exemple, qui m'a dit un jour, toi, t'es blessée, t'as des blessures, puis t'es pas guérie, avec le doigt long de même. Est-ce que j'aimerais que ce soit elle qui ouvre la porte? Ah, c'est à ça que Dieu nous interpelle aujourd'hui. Les premiers dans le royaume de Dieu. Les premiers seront les derniers, puis les derniers seront les premiers. De ça qu'on est tous premiers. Alors, dans l'Eucharistie que nous allons célébrer cet après-midi, là, je vais vite, là, mais... on dit « Ô toi qui viens en nous dans la fragilité de ce sacrement. » Je pense que c'est Jean Vanier qui disait ça. Que Jésus vient à nous dans la fragilité, dans notre fragilité. Alors, notre fragilité, nous sommes de toute façon premiers, premières dans le cœur de Dieu. À cause, justement, comme on le répète si souvent cette année, à cause de sa miséricorde. Bon, alors, dans le texte qui nous est suggéré aujourd'hui, bien, si on le lit dans Matthieu, c'est la mère de Jacques et Jean qui intercède auprès de Jésus. Si on le lit dans Luc, c'est eux deux, Jacques et Jean eux-mêmes, qui viennent auprès de Jésus, puis qui lui demande de siéger aux premières loges, là, première place. Puis ce qui est intéressant dans ma Bible, c'est la Tobe, le titre de cet épisode-là, là, des versets 20-28, c'est écrit « Ambition et service ». Ambition et service. Comment concilier... Et Jésus termine en disant, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Alors, si pour servir, il faut que je sois mise à l'honneur, bien peut-être que mon désir de service n'est pas à la même mesure que Jésus. Hein? Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors, quand Jacques et Jean, ou la mère, leur mère, demandent à Jésus qu'ils soient les premiers, bon, imaginez ce qui s'est passé avant ça, dans le passage qui précède, c'est que Jésus annonce sa passion pour la troisième fois. C'est ça, pour la troisième fois, Jésus annonce sa passion et sa résurrection. C'est ce qui précède, là, les versets 20 à 28. Puis là, tout de suite, on demande des honneurs. C'est comme si les disciples voulaient être rassurés avant d'avoir rempli jusqu'au bout leur mission de service. Moi, je veux bien te rendre service, mais à condition que... Après ça, là, tu me fasses telle faveur. Hein? Alors, il va être s'assurer de la faveur avant d'avoir rempli le service jusqu'au bout. Alors, comment ça résonne en dedans de moi? Moi, oui, ça m'est arrivé de mettre des conditions à un service. OK, je vais te faire ça, mais tu as besoin de ensuite. Tu as besoin de. Hein? Alors, ce à quoi le Seigneur nous invite, c'est à un service de gratuité, un service dans l'amour. Hein? Un service, c'est ça qui donne la vraie grandeur, mais un service qui est basé sur la reconnaissance de la parole de Dieu, la reconnaissance de la bonne nouvelle. C'est dans ce contexte-là que le service a de la valeur. Si je sers pour être récompensé en retour, ça, des fois ça arrive, là, hein? Mais si c'est ma seule intention, je rate la cible, hein? Alors, servir parce que le Seigneur m'a donné l'exemple du service, parce que Jésus s'est fait le serviteur, et on l'a vu, et on va le revoir et le reméditer au moment de la Semaine Sainte, hein, à la Seine. Jésus s'est mis à genoux, il s'est fait le plus petit pour servir. Il y a quelqu'un qui racontait que son père était très grand. C'était un grand homme physiquement. Puis il dit, un matin, comme petit gars, je me suis levé plus de bonne heure et j'ai vu mon père, un grand homme physiquement, à genoux de bonne heure le matin pour prier. Il dit, ça m'a aidé à comprendre qu'est-ce que c'était la vraie grandeur. À genoux, mon père était un grand homme. Debout, mon père était un homme grand. Il dit, j'ai compris la différence entre la véritable grandeur. C'est d'être mu, d'être porté dans ma vie quotidienne par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu. Alors, puis il ajoutait l'importance de vivre dans notre vie, de vivre dans l'humilité, mais l'humilité de l'amour. Alors, je pense que c'est ça que Jésus a essayé de faire comprendre à ses disciples. Vivre dans le service, dans l'humilité, mais l'humilité de l'amour. Alors, à ce moment-ci, j'aimerais qu'on puisse chanter le chant « Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, savoir servir. » Pouvez-vous vous lever si vous levez si ça vous va? Alors, si on poursuit notre lecture de cet épisode-là, Alors, les apôtres, les deux frères demandent un honneur assuré, une place assurée. Mais ils n'étaient pas tous les deux tout seuls avec Jésus. Il y en avait une dizaine d'autres, hein? Bon. Puis les autres, ils ont entendu ce que les deux frères ont demandé à Jésus. Et ils se sont indignés. Alors, s'ils se sont indignés, c'est que probablement qu'ils portaient le même désir. Et pourquoi eux autres? Pourquoi que Jésus installerait Jacques et Jean à ses côtés, puis pas nous autres? Bien, dans leur supposé silence, ils désiraient la même chose. Alors, c'est important de réfléchir. Moi, en tout cas, ça m'a fait réfléchir. Hein? Quand je vois une personne ou l'autre d'un groupe ou de ma communauté, puis des fois, ça brosse en dedans, ouais, ben, pourquoi pas moi? Alors, les 10 se sont indignés, mais en dedans. Hein? Bon, ils ont peut-être parlé après, mais ils se sont indignés. Ça m'a fait réfléchir. Hein? On veut... ils sont quelqu'un, eux autres, de demander d'avoir des privilèges, là. Mais pourquoi je m'indigne parce qu'ils demandent ce privilège-là? C'est peut-être qu'en dedans de moi, hein, il y a une petite jalousie ou bien aussi un désir de ce même honneur, mais que je n'ai pas exprimé ouvertement, mais qui est là pareil. Alors, pour moi, c'était une invitation, je trouve que c'est une invitation à vraiment regarder les mouvements intérieurs. Hein, dans mon quotidien, les mouvements intérieurs. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Au verset 25, j'ai trouvé que c'était un verset qui était très actuel aujourd'hui. On dit, vous le savez, Jésus qui dit ça aux apôtres, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Vous voyez, il y a les grands encore, le mot grand, hein? Font sentir leur pouvoir. Je pense que c'est quelque chose qui est très actuel aujourd'hui dans le monde, on voit ça. J'ai entendu dernièrement quelqu'un nous expliquer en vérité le pourquoi de l'exil de tous les Syriens de leur pays. C'est programmé d'une façon terrible. Bon, je vous raconterai pas toute cette histoire-là, mais seulement le fait de savoir que c'est programmé que les Syriens partent de leur pays. C'est pas évident, mais il y en a qui décident de demeurer là. Bon. Alors, les nations gouvernent et c'est comme s'ils dominent, ils font sentir leur pouvoir. Alors, c'était une bonne parole de Jésus pour nous éveiller à réfléchir. Est-ce que moi aussi, j'ai mes façons de vouloir avoir du pouvoir? Il y a beaucoup de différentes façons, en tout cas, j'en connais, moi, des différentes façons de manifester du pouvoir. Même le silence peut être un moyen d'avoir le pouvoir. Je sais pas, peut-être la seule qui a expérimenté ça, là. Hein? De rester silencieuse, mais c'est une forme de domination sur une personne ou l'autre. Alors, quand Jésus leur dit ça, eh bien, ça m'a fait réfléchir sur ce qui se passe dans le monde. Combien de personnes sont victimes du pouvoir, de personnes qui sont mues par le goût du pouvoir, un pouvoir déréglé. Alors, quand on voit toutes les personnes qui sont en route en ce moment, encore, les gens qui sont accueillis ici, alors, il y a eu une erreur de pouvoir dans ça. Alors, les petits, les grands. Hein? J'ai aussi réfléchi sur un autre texte, la parole de Dieu, c'est le centurion. Il y a un grand, puis un petit, là, l'esclave, le serviteur. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est le grand, le centurion, qui vient demander à Jésus de guérir son esclave. Alors, c'est quoi la vraie grandeur? Ça a été sa grandeur de cœur. Il dit, mon esclave est malade, fais quelque chose pour moi. Et en demandant que Jésus guérisse son esclave, bien, il a rencontré Jésus le Maître. Le centurion a été comme guéri lui-même, peut-être d'un pouvoir qui, de temps en temps, n'était pas ajusté. Il a été, par le fait même, en rencontrant Jésus, guéri de peut-être d'un pouvoir qui n'était pas, comme je disais, ajusté. Et il vient demander, c'est le grand qui vient demander une faveur pour, normalement, on pourrait dire, le petit, l'esclave. Alors, le centurion s'est fait petit dans son cœur pour que Jésus ait pitié de son esclave malade. Dans l'Évangile, c'est incroyable, toutes les situations où il y a comme ça la grandeur, puis de la petitesse, puis c'est comme s'il y a un jeu entre deux. Hein? J'ai aussi regardé l'épisode où Jésus parle des collecteurs d'impôts puis des prostituées. Il parle de ça aux pharisiens. C'est encore une histoire de grandeur puis de petitesse, hein? Parce que les pharisiens levaient le nez, ou bien il y en a qui disent, bien, ils regardent sur l'épaule de l'autre, là, ou bien il y en a d'autres qui expriment la même chose en disant, ils regardent le nez accroché au plafond quand ils rencontrent les autres. Alors, les pharisiens voulaient justement condamner, hein, on pense à Zachée, hein, on pense à la pécheresse pardonnée, alors juger, condamner, et Jésus leur dit, les collecteurs d'impôts, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu si vous n'acceptez pas d'être petit dans votre cœur. Hein? D'être petit, donc d'être premier dans le cœur de Dieu. C'est incroyable, toutes les allusions à la vraie grandeur et à la petitesse de l'humilité dans l'amour, dans l'Évangile. Bon, Zachée, je viens de le mentionner, Zachée, il était petit de taille, mais aussi, il a été grand dans son cœur pour accepter de se laisser transformer par Jésus, puis il est devenu tellement généreux, hein? Tellement généreux à cause de ça. Prenez la brebis égarée. Bien là, j'ai eu un petit problème avec la brebis égarée. Parce que Jésus, il quitte les 99 pour aller en chercher une. Vraiment, il n'y a pas le sens de la mesure, là. Hein? Il n'y a pas le sens de la mesure. Tout à coup que le loup serait arrivé sur les 99 pendant qu'il allait chercher l'autre, là, qui n'avait pas suivi comme tout le troupeau. Jésus a le sens de la démesure. C'est vrai. Mais son sens de la démesure nous amène à un dépassement. Il dit, toi-même, toute seule, si tu étais mal prise, hein, j'irais te chercher, je laisserais les autres. Alors, oui, Jésus a le sens de la démesure, mais c'est la démesure de l'amour. On regarde la parabole de l'enfant prodigue. Bon. Bien, la parabole de l'enfant prodigue, c'est encore une démesure. Le gars, il est parti avec tous ses biens, les biens de son père. Il lui demande avant le temps d'avoir son héritage. Quasiment, j'ai hâte qu'il soit mort, mais je vais me servir avant. Alors, le sens de la démesure. Et le père l'attend avec les bras grands ouverts. Mais pour ça, je crois qu'il a fallu que le fils ait une grande foi que son père l'accueillerait. Il ne serait pas parti, le fils, pour revenir. C'est que déjà en dedans de lui, le fils avait déjà une confiance incroyable en la bonté du Père. Ça ne se pourrait pas autrement. Autrement, il aurait dit, je ne retournerai pas là, il va me claquer, ou bien, je vais avoir une bonne volée. S'il est parti, s'il s'est mis en mouvement, c'est qu'il a reconnu la grandeur du cœur de Dieu, que lui aussi pouvait être un premier dans le cœur de son Père. Puis on sait qu'est-ce qui s'est passé. Alors ici, j'aimerais qu'on chante un petit refrain. Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Bon. Alors, ce que je voudrais continuer de parler un petit peu, c'est Jésus et la loi. Puis, il me dit, c'est comme si, en préparant, en me laissant enseigner par le Seigneur, c'est comme s'il mettait toutes sortes de petits enseignements à ma disposition. Vous avez dû voir dans le prion en église de janvier, la grammaire de l'amour, dans les pages derrière le prion en église, la grammaire de l'amour. Hein? La vraie grandeur, c'est l'humilité dans l'amour. C'est ça la vraie grandeur. C'est ce que Jésus nous enseigne. Hein? Alors, vous êtes les premiers, chacun, chacune, les premiers dans mon cœur. Alors, je vous dis vitement, avant de terminer, les quelques règles de la grammaire de l'amour. Une grammaire, c'est ça, hein, les règles de grammaire, là. Hein, vous mettez un S quand il y a plusieurs choses, puis il y a certains mots qui prennent un S, alors que normalement, ils n'en prendraient pas. Bon. La première règle de l'amour, et ça va dans le sens du service. Jésus dit, je ne suis pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir. Je suis encore mêlé, comme les premiers et les derniers. C'est aime le premier. Aime le premier. Si tu veux faire des classes, là, parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de classe. C'est pas première classe, deuxième classe. C'est tous nous sommes premiers. Mais dans la règle de l'amour, c'est « aime le premier ». Attends pas que l'autre... peut-être qu'après ça, il va répondre à ton amour, mais aime le premier. Pose un geste. Dis une parole. Pose un regard. Deuxième règle, oublie-toi pour l'autre. La règle de l'amour. Oublie-toi pour l'autre. La troisième règle, aime tout le monde, ne choisis pas ton prochain. Et fameuse celle-là, hein? Aime tout le monde. Ne choisis pas ton prochain. La quatrième, ça rejoint notre texte, aime en servant. Hein, Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude, pour les autres. C'est le verset 28. La cinquième, aime tes ennemis. Bon, ça, on a lu dans l'Évangile, hein? Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous voyez, il y a comme une progression, là. Hein? Sixième règle, aime l'autre au point de partager tes biens avec lui. Hein? Si c'est pas vraiment actuel aujourd'hui, hein, on demande de l'aide pour les personnes qui arrivent. Aime l'autre au point de partager tes biens. Hein? Bon, alors c'est ça, l'Évangile est la grammaire de l'amour. Alors, si on vit d'après ces six règles-là, bien, c'était un peu vivre selon ce que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui. Hein? Les premiers seront les derniers les premiers, donc vous êtes tous premiers dans mon cœur. Je vous raconte un petit fait. Je vous ai dit au début que j'étais allée faire une poustinia à la fraternité Saint-Alphonse. Et puis après ça, en revenant, je suis allée visiter une dame seule, âgée, pour les petits frères des pauvres. Puis j'osais avec la madame. Et puis, tout à coup, arrive une personne. La madame avec qui j'osais, la dame âgée, elle dit, regardez, elle dit, elle, c'est la première. Ah oui, c'est la première. Bon, alors, bonjour, madame. Et puis là, finalement, on s'est mis à jaser. Puis moi, en farce, là, fofolle, bien, j'ai dit, si vous êtes la première, je dois être la deuxième. Puis elle s'est mis à rire. Puis, tu as quoi, elle me dit son nom? Elle dit, je m'appelle Claudette. Ah, ben, j'ai dit, c'est ça. Vous êtes la première Claudette et je suis la deuxième Claudette. Alors, on s'est amusé avec ça. Je veux dire, un petit événement, puis moi, tout ce qui touchait à premier puis dernier, là, hein, depuis que je préparais, là, alors c'était grand et petit, alors il y avait des résonances à l'intérieur. Alors, c'est ça. Alors, je pense que le Seigneur voulait nous dire un peu aujourd'hui, c'est que vous êtes tous et toutes les premiers dans mon cœur. Et je termine par un texte d'Isaïe qui montre jusqu'à quel point nous sommes les premiers dans le cœur de Dieu, chacun et chacune. Puis il le dit bien clairement. Alors, c'est dans Isaïe, au chapitre 43, le verset 4. Il dit, « Tu vaux cher à mes yeux. Tu as du poids pour moi, et moi, je t'aime. » Il dit, « Ne crains pas. Je t'ai appelé par ton nom. Ne crains pas. Tu as beaucoup de valeur pour moi. » Ensuite, à 49, eh bien là, j'ai dit, « Tiens, j'avais pas su, j'ai pas réalisé que Dieu était celui qui avait inventé le tatouage. » C'est écrit dans la Bible. Il dit, « J'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. » Alors, c'est Dieu qui a inventé le tatouage. Des fois, on voit des personnes, hein, avec un petit cœur, puis c'est quelque chose qui... Ben moi, je souhaite... Parce que quand une personne se promène avec un petit cœur ou avec un nom, ça veut dire qu'elle veut penser cette personne-là. hein? À chaque fois qu'elle prend une cuillère, ben, elle voit le petit cœur, puis après ça, elle voit le nom. Puis, hein? Alors, je nous souhaite de tatouer le nom de Jésus dans notre cœur. Puis si vous croyez au vrai tatouage, là, c'est, ben, mettez le nom de Jésus pour voir, ça va faire réagir du monde. Alors, il dit, « Je donnerai des villes pour toi, parce que tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Amen. Alors, on pourrait peut-être leur chanter, « Viens, tu comptes pour moi. » Pendant l'adoration, nous allons nous laisser regarder par le Seigneur et puis le laisser tatouer son nom dans notre cœur.
Tu prends.